Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bonne année 2021. Merci de rester fidèles au programme de Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Okapi Service, le tout premier numéro de l'année 2021. Au menu, que faut-il pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en cette période de la deuxième vague du coronavirus? Et dans la deuxième partie de ce numéro, nous aurons comme sujet comment encadrer des PME et autres start-up secouées par la crise socio-économique due au coronavirus. Voilà les deux sujets qui vont être abordés au cours de ces 2 heures d'émission de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Tatima Poukou est à la réalisation et coordination de ce magazine. Willem Lungamba est à la mise en onde et Marcel Ngombombala a le réel plaisir de vous les présenter. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Et voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jour, le tout premier pour l'année 2021. Nous abordons comme premier sujet, nous allons parler de que faut-il faire pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en cette période de la deuxième vague du coronavirus. Nous avons 3 invités pour en parler. Nous avons déjà en ligne le premier invité. Il s'agit de Hubert Kimbonza Sefou, l'inspecteur adjoint chargé des innovations pédagogiques à l'inspection générale de l'enseignement primaire secondaire professionnel et technique. Monsieur Hubert Kimbonza Sefou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous savez, la reprise de cours, en tout cas en RDC, dans les écoles primaires et secondaires prévues le 5 janvier dernier, renvoyée à une date ultérieure selon la décision prise lors de la réunion tenue par l'équipe de la campagne de riposte contre le coronavirus et le ministère de l'enseignement primaire secondaire. Et pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours à partir de la maison, les ministères de tutelle plaident pour l'insertion du programme de l'enseignement dans les médias. Cependant, la société civile œuvrant dans les secteurs de l'éducation encourage plutôt la mise en place d'un programme de l'enseignement à distance. Alors avec vous et les autres invités qui vont intervenir au cours de cette émission, on va chercher à savoir que faut-il pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en cette période de la deuxième vague de coronavirus. Je rappelle à tous les auditeurs, si vous êtes intéressés par ce sujet, vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler au 099-706-6394 ou également au 081-890-63-94. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur la page Facebook Okapi Service ou aussi nous écrire à l'adresse service@radiookapi.net. Voilà, dites-nous, monsieur Hubert Kimbonza Sefou, alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec cette deuxième vague de coronavirus où apparemment l'année scolaire risque encore une fois d'être perturbée?
Oui, merci beaucoup de la parole que vous m'accordez. Je pense que si vous avez encore bonne mémoire, il y a cela 2 semaines, j'étais sur vos antennes et nous avions débattu pratiquement du même problème. Et en date du 8 janvier 2021, vous aviez appris que son Excellence le ministre d'État Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique avait convoqué son équipe pour voir ce que l'on peut faire pour éviter que l'année ne soit blanche. Et je profite de l'occasion pour démentir l'information selon laquelle Son Excellence le ministre d'État a dit que l'année est blanche. Ce sont des fake news qui circulent sur la toile. Revenons maintenant à notre sujet. On avait très bien dit que la loi cadre 14/004 du 11 février 2014 était claire et elle consacrait l'introduction au sein de l'enseignement national les technologies de l'information et de la communication pour faciliter notamment l'enseignement ouvert et à distance. Et cette loi cadre-là doit en principe être matérialisée article par article, chapitre par chapitre et section par section. Et nous n'avons jamais pensé à ça. À quelque chose malheur est bon, la pandémie à coronavirus est intervenue, nous nous sommes ressaisis et votre chaîne nous a accompagnés avec Okapi École. Nous avons eu à faire appel aussi à notre chaîne thématique Éduc TV pour la classe télévisée et les autres chaînes partenaires se sont associées au ministère de l'EPST via bien sûr les gouvernements avec le ministère de la communication pour faire en sorte que les enseignements de l'année scolaire précédente ne soient pas perturbés. Dieu merci, on a terminé l'année en toute bonté. Et cette année ici, les cours avaient repris et la deuxième vague s'est annoncée et les cours se sont arrêtés. On devait reprendre. Vous avez suivi son Excellence le ministre d'État qui était allé, et vous l'avez même rappelé, il est allé vers le service des ripostes qui lui ont dit que le moment n'était pas favorable parce que on tendait vers le pic de la seconde vague. Et on propose même, on prédit qu'il y aura une troisième vague. C'est en ces termes-là, le chef étant quelqu'un qui doit savoir prévoir, hein, selon Fayol, nous savons il faut qu'il sache prévoir, qu'il sache gouverner, et il a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour que l'année ne soit pas blanche. Comment ? En convoquant l'équipe, nous sommes en pleine séance de travail, ça c'est depuis la semaine passée, oui, que nous sommes en train de travailler, d'abord à l'interne, les partenaires vont être associés après, sûrement, à l'interne, nous sommes en train de voir comment proposer à son Excellence les voies de sortie, de sorte que, même si la pandémie persistait, que les enseignements ne souffrent pas, que les élèves ne restent pas à la maison, que les parents qui ont commencé à payer de l'argent ne puissent pas regretter demain ou après-demain. On va voir, et c'est sûrement avec les mêmes enseignants qui sont en présentiel, ce sont les mêmes qui vont être appelés pour l'enseignement à distance. Donc nous nous y mettons pour que l'année ne soit pas blanche et que les chefs puissent proposer ou dire à l'opinion au moment opportun les grandes décisions qui seront prises.
Est-ce que vous avez connu quelques difficultés pour mettre ces innovations pour ce qui est de l'enseignement primaire et secondaire pour la première vague? Vous avez connu des difficultés que vous avez pu réajuster?
Effectivement, d'abord, il s'agit de l'enseignement primaire, oui, secondaire et technique. Oui. Donc, il faut ajouter technique pour que l'on ne tombe pas un jour sur d'autres problèmes, parce que nous avons peur de technique et professionnel. En fait, avec la classe télévisée, parce que c'était la... je commence avec les cahiers d'exercice, dans un premier temps. Oui. Les cahiers d'exercice ont été produits par les gouvernements congolais à travers le ministère des tutelles, qui est l'EPST, en collaboration avec un partenaire. Ce partenaire nous avait aidés à écrire les cahiers et à les expédier chez les destinataires, qui sont les élèves. Et il y avait plusieurs canaux qui étaient utilisés. Sur terrain, il y a des ceux-là qui recevaient directement les cahiers sous forme papier et d'autres sous forme électronique. Et là, il n'y a pas eu de problème, sauf qu'il faut un feedback pour que l'on nous dise, qu'on évalue école par école, comment ont été les performances des enfants en résolvant les exercices qui étaient proposés. La deuxième possibilité a été celle de scripts qui ont été produits et mis en œuvre par les radios communautaires, y compris bien sûr la radio Okapi. Vous aviez des supports audio que vous mettiez en ligne. Pour ces supports, nous avons pu déceler certaines erreurs, en fait certaines insuffisances qui ont été aussi relevées par toutes les personnes qui sont attentives dans le secteur de l'éducation. Par exemple, l'interaction entre enseignants et élèves, là, on devait penser aux différentes réactions des apprenants lorsque un enseignant pose une question. Eh ben, c'est comme ça que de temps en temps, on sentait qu'il y avait un jeu de rôle qui était pratiquement fait par l'enseignant lui-même. C'était pour résoudre ces problèmes. Malheureusement, les grandes difficultés ont été aussi celles de la couverture, hein, à travers la République, des chaînes des radios.
Oui.
Il y a des coins où on a soit une chaîne radio communautaire, mais qui est tombée en panne, ou peut-être que les groupes ne marchent pas. Et pendant ces temps, on avait connu toutes ces difficultés-là. La deuxième difficulté, la troisième, c'est celle avec la classe télévisée en direct.
Oui.
Il n'y avait pas d'interaction dans l'immédiat. Mais à la fin, nous demandions et nous continuons à demander jusqu'à présent,
oui,
aux enseignants, une fois qu'ils terminent leur prestation, qu'ils laissent leur numéro de téléphone, leur adresse email, de sorte que l'interaction soit en quelque sorte retardée. Hein, et là, nous avions des données pour nous dire effectivement que les gens réagissaient.
Voilà, inspecteur Hubert Kimbonza, c'est faux, on vous garde encore en ligne, hein, il est temps pour nous d'accorder la parole à des auditeurs qui sont déjà en ligne. Nous avons Maître Gilbert Massoudi qui nous appelle de Kindu, et également Jeff Fungoi qui est à Kananga. Je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons de que faut-il pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en cette période de la deuxième vague du coronavirus. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, n'hésitez pas à composer les 099-706-63-94 ou encore les 081-890-63-94.
Urban Scène, votre magazine de musique urbaine. Une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tous les jeudis et vendredis à 15h30, le samedi à 20h05. Et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa, avec DJ Daddy.
Bienvenue au magazine Okapi Service, votre magazine de la vie au quotidien. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons de que faut-il faire pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en cette période de la deuxième vague du coronavirus. Nous avons déjà en ligne Maître Gilbert Massoudi depuis Kindu. Maître Gilbert, bonjour. Maître Gilbert, vous nous suivez depuis Kindu, vous êtes en ligne, bonjour. Il me semble que Maître Gilbert n'est plus en ligne, on pourra le retrouver plus tard. Jeff Ngoi, lui, est à Kananga. Jeff Ngoi, vous êtes à Kananga, bonjour Jeff Ngoi.
Bonjour Monsieur Marcel, mes vœux les meilleurs à toute l'équipe de la Radio Okapi.
On vous écoute Jeff Ngoi.
Oui, Monsieur le journaliste, c'est en tout cas avec larmes aux yeux de voir les enfants de la RDC en train de subir encore les effets néfastes de la deuxième vague de Covid-19 sur le plan éducatif. Messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer que les enfants qui sont dans les plus profonds coins de la RDC ne suivent pas l'enseignement à distance comme prévu par le ministère de tutelle. Ça, je vous l'ai dit. Nos enfants qui sont ici, dans la maison avec moi ici, à Kananga, ne savent même pas quand est-ce qu'il faut suivre l'enseignement à distance. Alors, ce que nous voulons, nous avons besoin que les enfants soient toujours à l'équilibre, soient toujours sur le rythme des enseignements. Au jour d'aujourd'hui, quand vous posez quelques questions à l'enfant, de ce qu'il a étudié pendant qu'on avait autorisé la reprise des cours, vous allez voir que l'enfant perturbe toujours. L'enfant est toujours en déséquilibre. Alors, le mieux à faire, c'est que, ça je propose, nous devons toujours avoir les cahiers des exercices de la part des chefs des établissements. Et ce genre des exercices-là vont permettre aux enfants, même nous les parents qui sommes à la maison ici, nous pouvons aider les enfants à pouvoir s'exercer mentalement. Alors, tout cela, c'est pour permettre aux enfants à bien suivre, à être toujours à la mode, ce qui on va autoriser demain ou après-demain, la reprise des cours. En tout cas, ça reste au moins une proposition majeure que je peux faire pour le moment. Qu'on fasse les cahiers d'exercices aux enfants, on en va auprès des parents. Les parents doivent assurer aussi cet enseignement-là pendant que nous sommes en train de subir la deuxième vague de coronavirus. Merci.
Merci Jeff Ngoy d'avoir appelé de Kadanga. Comment réagissez-vous, Hubert Kimbonza Sefou? Vous avez suivi Jeff Ngoy qui a appelé de Kadanga. Il a dit que là, il se pose un réel problème à poursuivre ses enseignements tels que préconisés par le ministère des tutelles. Il a proposé, si c'est possible, que les enseignants puissent avoir, les chefs d'établissement puissent disposer de cahiers d'exercice pour les élèves. Monsieur Hubert Kimbonza, vous êtes en ligne? Il me semble que notre invité n'est plus, est en ligne, mais apparemment. Monsieur Kimbonza, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Ah voilà, restez branchés parce que nous continuons encore avec vous pour poursuivre ces sujets sur que faut-il. Oui, oui. Vous avez suivi, hein?
J'ai remercié et j'ai salué Monsieur Jeff
Ngoy. Oui, qui a appelé. Vous avez suivi ce qu'il a dit.
La toute première proposition, oui, celle des cahiers d'exercice, est mise aussi sur la table de Son Excellence. Et nous avons dit ceci. Voilà, il y a un parent qui est à la maison, mais qui peut éprouver des difficultés pour résoudre un exercice. Qu'est-ce que nous avons proposé? Que ce soit les cahiers des notes et exercices. Je vais vous donner un exemple. Comment multiplier un nombre par 10? On dit, il faut ajouter un zéro à gauche, à droite de ces nombres. Exemple, dans l'explication qu'on aura dans les cahiers des notes et d'exercices, ça sera, nous avons 17 fois 10, font combien? Entre 1 et 7, quel chiffre est à gauche et lequel est à droite? En disant cela, l'enfant va répondre et les parents verront qu'il s'agit bien sûr des 7. Alors, on dit, il faut ajouter un 0. L'enfant reprend 1, 7, 0. Et la réponse donne 170. Donc, cette fois-ci, ça ne sera pas des exercices comme c'était par le passé. Nous sommes en train d'étudier de voies et moyens pour que les parents et les apprenants qui vont disposer de ces cahiers d'exercices, même s'ils ne sont pas du domaine, qu'ils comprennent l'architecture ou l'enchaînement logique du raisonnement. Et après, on aura bien sûr les exercices qui vont pouvoir intervenir. Par exemple, 15 fois 10 font combien? 9 fois 10 font combien? Avec la même méthodologie, l'enfant va lire et va comprendre pour trouver des réponses. Là, c'est un point positif, qu'il soit rassuré. Cette proposition a été acceptée par l'autorité.
Là, c'est très bien, mais il y a également un gros souci pour de nombreux parents, c'est vrai. Ce que vous proposez de faire, on verra comment ça va marcher, parce que vous l'avez pas encore appliqué lors de la première vague. Mais est-ce que vous avez essayé un peu de voir à travers le pays, après avoir tenté d'expérimenter, en tout cas, toutes ces innovations sur l'enseignement, soit à travers les médias, soit en ligne? Vous avez essayé de faire une évaluation pour savoir de manière générale si c'était largement positif pour la formation des élèves?
Non, s'il faut dire aujourd'hui que c'était largement positif, là, c'est vraiment un trompe-l'œil.
Oui.
Et on a connu des difficultés, raison pour laquelle je vous ai proposé la première solution avec les cahiers d'exercice, avec la nouvelle donne que j'ai introduite, des notes qui vont pouvoir s'ajouter. Nous avons aussi tenu compte des zones géographiques. Et là, selon ce qu'on appelle, vous savez, en approche par compétence, on voit les besoins de milieux. À partir de milieux, on sait maintenant, pour l'enseignement à distance, quel type d'outils adapter. Et nous avons fait ce travail-là, les équipes sont en train de voir. Par exemple, pour Kinshasa, quel type d'enseignement à distance allons-nous utiliser? Pour Gungu, quel type d'enseignement à distance? Est-ce que ce sont les cahiers? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est l'Internet? Donc, ce sont toutes ces difficultés-là nous avons eu des échos des terrains et nous travaillons en fonction des spécificités de chaque coin géographique pour que tout le monde soit satisfait. Mais ça sera la même matière que l'on va retrouver à la radio, à la télévision, sur Internet et dans des cahiers d'exercice.
Donc, on retient qu'à ce stade, au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en tout cas, les réunions se poursuivent avec d'autres partenaires pour essayer de voir encore comment bien améliorer les choses.
Oui, effectivement, les réunions se poursuivent. Je voulais même vous dire que je suis déjà en retard parce que la deuxième réunion, c'est pour bientôt avec son Excellence le ministre d'État. Nous allons lui proposer les différentes productions de groupes pour voir comment est-ce qu'on peut maintenant faire appel aux partenaires éducatifs. Ça, je le rappelle, dans la loi cadre, il est dit que l'enseignement national est géré de manière partenariale. C'est-à-dire, nous avons les parents, nous avons les syndicats, nous avons les PTF, nous avons les confessions religieuses. Donc, tous ces partenaires-là vont être associés à la dernière minute pour qu'on puisse leur dire qu'ils mettent aussi leurs inputs afin que l'enseignement à distance soit une réalité. Avant que peut-être que vous puissiez m'aider à vous quitter, je vais vous parler d'un cas réel que peut-être vous aussi vous avez vécu à Kinshasa. Dans ma commune de Massina, vers les années 85, nous n'avions pas de courant. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On suivait la télé avec des batteries. On allait dans des charges, batteries pour venir avec cela, et on suivait des télés noirs et blancs. Ça, c'est vers les années 80. Et après, on a vu qu'on commençait à acheter des téléviseurs couleurs. Une personne sur l'avenue qui avait une télé couleur, pour nous, c'était un dieu ou un grand Richard. Ça a évolué vers les années 90. Les télés sont devenues pratiquement partout. Donc on évolue, c'est ça ce qu'on appelle la réforme. On doit aller de l'avant, il y a certes des difficultés, mais on doit commencer quelque part. Et en toute logique, pour l'enseignement à distance via les téléphones, sûrement il y aura des provinces d'expérimentation, parce qu'on ne va pas généraliser cela partout pour tomber dans le piège de ce qu'on appelle des prophètes de malheur.
Voilà, monsieur Hubert Kimbonza, c'est fou, on va vous laisser, on va vous libérer pour aller rejoindre, pour aller en tout cas participer à votre réunion. Merci d'avoir disposé d'un moment de votre temps pour aider les auditeurs Radio Capi à mieux encore cerner ou comprendre ces sujets sur ce qui est en train d'être fait au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour faire en sorte qu'en tout cas, pendant cette deuxième vague de coronavirus, en tout cas que les élèves puissent continuer à s'ouvre les cours. Nous rappelons que vous êtes inspecteur adjoint chargé des innovations pédagogiques à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique. Merci d'avoir été des nôtres.
Inspecteur général adjoint, merci. Cela a été pour moi un grand plaisir. Je suis toujours disposé à éclairer la lanterne et beaucoup plus aider nos compatriotes à comprendre les différentes innovations au niveau du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Merci.
Merci beaucoup. Que faut-il faire pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en ces périodes de la deuxième vague du coronavirus? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous avons en ligne notre deuxième invité pour commenter ces sujets. Il s'agit de Jean-Marie Tantoumé. Il est enseignant de formation et promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation. Jean-Marie Tantoumé, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoint pour parler de ces sujets sur que faut-il faire pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en cette période de la deuxième vague du coronavirus. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous êtes intéressés, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à composer les 081 890 63 94 ou encore les 099 716 63 94. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net ou sur la page Facebook au Capi Service.
De Goma au Capi, de Matadi au Canada,
de Sangani au Capi Sport,
Ouagadougou au Capi Sport,
au Capi Sport à Bukavu,
au Capi Sport, partie interactive.
de Goma, de Matadi, au Kananga,
Kisangani, au Capisport,
Ouagadougou, au Capisport,
au Capisport, à Bukavu,
au Capisport,
au Capisport, partie interactive.
Monsieur Tantoumé, Jean-Marie Tantoumé, vous êtes enseignant de formation. Quelle analyse vous, à votre niveau, vous faites de cette innovation qui a commencé lors de la première vague de coronavirus ici dans le pays avec cet enseignement à distance ou aussi à travers les médias?
Merci beaucoup. D'abord, je tiens à compléter ma présentation.
Oui.
Je suis enseignant de formation de profession et par vocation. C'est depuis l'école primaire que je suis à la pédagogie des frères Joseph de Nzambi. Et j'ai terminé à l'IPER, licencié en pédagogie appliquée, option français linguistique africaine. Et notre aspect, le BAC a pour mission l'éveil des esprits et des consciences. Mon peuple meurt par manque de connaissances et le BAC participe à donner des connaissances à notre peuple pour qu'il ne meure pas par manque de connaissances. Cela étant dit, le cours à distance, le cours en ligne, c'est une très bonne chose. Mais il faut d'abord donner aux élèves, à la population, la culture de cours à distance, de cours en ligne. Il faut d'abord donner à la population les moyens pour suivre le cours en ligne, c'est-à-dire avoir de l'électricité ou des panneaux solaires, avoir un appareil récepteur, appareil téléphone Android ou appareil récepteur de télévision. Or, aujourd'hui, la population congolaise, 70% ne dispose ni d'appareils cellulaires Android, ni d'appareils de réception de télévision, moins encore d'électricité. Même dans la capitale, on souffre de délestage. J'habite Lemba, le courant vient à 1h, il repart à 5h. Mais comment est-ce que le ministère peut vouloir organiser le business sur le dos des élèves? On prétend que pour que les élèves étudient pendant la période de Covid-19, il faut des cours à distance. Mais non, monsieur le ministre, ça c'est du business. Il y a des Occidentaux qui ont des appareils à vendre, qui veulent faire le business et qui viennent parler de cours à distance. Et tout le monde dit, il faut des cours à distance. Non.
Mais dites-nous, monsieur Jean-Marie Tantoumé.
Toutes les dispositions voulues, tous les moyens pour des cours à distance.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, monsieur Jean Tantoumé, s'il vous plaît. On est dans un cadre précis. On est en train de parler de ces innovations. Ça, c'est des solutions.
Innovations sont bonnes.
Oui, mais justement, écoutez, s'il vous plaît, monsieur Tantoumé, s'il vous plaît.
Monsieur
Tantoumé, on va pas se comprendre de cette façon-là. On aimerait savoir. Vous avez fait une analyse à votre manière. Vous avez parlé des moyens qu'il faut mettre en place. Ça, c'est bien dit. Mais dites-nous, si vous pensez qu'à ces moments, les gens n'ont pas l'accès au courant électrique. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous, les solutions? Qu'on décrète l'année blanche ou quoi? Qu'est-ce que vous proposez comme proposition pour que les élèves ne chôment pas, l'année ne soit pas chômée? C'est ça notre préoccupation.
Bon, vous allez occuper combien d'élèves? Dites-moi, on va occuper combien d'élèves? 20% d'élèves, 10% d'élèves, et vous les occupez? Non, ça c'est du business. C'est de l'escroquerie, c'est de la comédie de théâtre.
Et vous vous proposez de faire quoi, M. Tantoumé? Ma question, elle est précise. Oui, oui.
Il y a la COVID-19,
oui.
Qu'on attend que les spécialistes du domaine de la santé nous disent quand on pourra lever les mesures pour tout le monde. Nous avons un secrétariat technique qui est compétent. Il se peut que d'ici une semaine, un mois, deux mois, on va lever les mesures. On ne peut pas faire n'importe quoi pendant la Covid-19, soi-disant occuper les élèves. Non, s'il vous plaît. La santé a un prix et l'éducation a un prix. Le secteur de l'éducation n'est pas un secteur du business, ce n'est pas un secteur du commerce. J'ai dénoncé ça dans ma pièce de théâtre Tournabuso. Qu'on ne fasse pas du commerce sur le dos des élèves. Le ministère a des dépenses importantes. Les correcteurs des examens qui ne sont pas encore payés. Les diplômes d'État, édition 2015, la facture n'est pas encore payée à la Banque centrale. Les supervisions nationales ne sont pas encore payées. Les nouvelles unités, le frais de fonctionnement. Il y a cette argent. Sinon, PTF, partenaire technique et financier de l'argent. Mais qu'on donne pour tous ces services que moi je viens de citer. On ne peut pas improviser des choses parce que les gens veulent avoir de l'argent, faire des business.
Mais c'est tant tout, mais Jean-Marie tant, mais restez en ligne, on vous garde en ligne, le temps pour nous. Mais restez en ligne, le temps pour nous d'accorder à d'avoir notre second invité, toujours par rapport à notre troisième invité, David Diatezoa, président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo Anapekan, sigle David Diatezoa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci de nous avoir rejoints dans ce numéro du magazine Okapi Service où nous parlons de ce qu'il faut faire pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en cette période de la deuxième vague du coronavirus. Comme certainement vous l'avez suivi avec Jean-Marie Tantoumé, il semble que tous les moyens ne sont pas réunis pour permettre à ce que ces gens d'enseignement se fassent dans notre pays. Comment vous réagissez par rapport à la mise en place de ces type d'enseignement?
Bien, je commence d'abord par saluer mon ami Jean-Marie Tantoumé, dont la pertinence des propos est vraiment appréciée.
Oui.
Maintenant, s'agissant de l'initiative de l'enseignement à distance, on n'arrête pas la science et les innovations ne sont pas faites pour les autres et non pour nous ici. Cependant, comme l'a si bien dit mon ami, mais il y a les fondamentaux qu'il faut respecter, parce que c'est la façon dont cette initiative est pilotée maintenant. C'est en tout cas un enfant sur 1000 seulement pourront avoir accès à cet enseignement, mais encore, comme il n'y a pas l'électricité en permanence, je pense que on travaille pour une infime minorité dont les parents peut-être sont en ville avec les groupes électrogènes, mais tous les enfants qui sont disséminés à travers le territoire et même à Kinshasa. Moi, j'habite Kinshasa, en Djili, et le courant est aléatoire, et encore moins les appareils là, les tablettes, les Android, oui. Les parents peuvent se taper un appareil Android, mais doter tous les enfants, 8, 9 enfants, d'appareils Android, c'est pas évident. Et ensuite, ça devrait se préparer. Donc,
d'après vous, il y a de l'impréparation.
Ça ne s'est pas préparé.
Oui, il y a de l'impréparation.
Alors, maintenant que Covid, deuxième phase arrive, et on improvise. Alors, l'improvisation n'a jamais fait quelque chose de sérieux. Donc, on travaille pour montrer à l'opinion qu'on travaille, mais sinon, très peu d'enfants seront atteints.
Donc vous estimez qu'il y a de l'impréparation par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est peut-être le fait qu'il y a, en tout cas, le coronavirus, on s'est pas bien préparé par rapport à ça, mais entre-temps, on a vraiment ces soucis de ne pas laisser chômer les élèves. Vraiment, vous gardez en ligne le temps pour nous d'accorder la parole à un auditeur.
Non, restez en ligne. Je voudrais compléter.
Restez en ligne. Alors, je reviens à vous. Restez en ligne. Temps pour nous d'accorder la parole à Benjamin qui nous appelle de Kananga. Bonjour Benjamin.
Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour à nos trois invités sur les plateaux.
On vous écoute Benjamin.
D'accord. Je suis intéressé par les choix du sujet. Vous savez Monsieur Marcel, depuis le 10 mars de l'an 2020 où la pandémie du coronavirus a été déclarée en RDC, et je pense que des voix se sont levées pour demander la déclaration de l'année blanche. Pendant que le ministre du tutelle, Willy Bakunga, avait déjà apporté une certaine innovation pour que les élèves puissent commencer à suivre les enseignements en ligne. Et je pense que cette disposition, qu'on croyait être bonne, était vitée à rencontrer plusieurs difficultés. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants n'ont pas le moyen ou la possibilité de pouvoir suivre les enseignements en ligne. Et vous savez ce qui est arrivé au mois de juin, lorsqu'on a déconfiné les pays. Tous les enseignants et même le préfet ont été demandé de pouvoir reconduire les points qu'avaient obtenus les élèves lors du premier semestre pour les programmer. Et c'est ce qui a été fait. Et maintenant que nous venons apprendre de regagner les institutions scolaires, il y a la deuxième pandémie à coronavirus qui s'annonce. Alors, monsieur Marcel, je pense que l'adhésion du ministre qui a dit la date de la reprise des cours est reportée ultérieurement est bonne, bien sûr. Mais moi, je pose la question. Comment on peut planifier? Comment on peut penser faire quelque chose dès lors que nous connaissons comment les situations très difficiles auxquelles fait face la République démocratique du Congo? Le ministre a dit les enfants doivent suivre les enseignements en ligne. Mais je pose la question. Est-ce que tous les enfants ont des smartphones? Est-ce que tous les enfants ont de l'Internet? Bon, même s'ils ont de l'Internet, est-ce qu'ils ont de la connexion? Parce que vous savez qu'en RDC, la connexion Internet pose problème. La connexion Internet pose problème. Et même, vous savez, jusqu'au moment même où je vous parle, je crois à la radio Okapi, il y a une émission Okapi École qui se passe chaque jour. Est-ce que les enfants que nous avons en RDC aujourd'hui peuvent se donner le temps de pouvoir suivre les enseignements soit à la radio, soit à la télévision? Donc, c'est un grand problème. Et peut-être que deux ou trois mois après, lorsqu'on va peut-être autoriser la reprise des cours, le ministre va nous devoir dire aux anciens, non, comme ça, comme nous tenons vers la fin de l'année, on va reconduire encore les points des élèves. Les élèves montent de classe en classe sans niveau, parce qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir se concentrer aux enseignements en ligne. Voilà pourquoi la place, moi, je proposerais, ça, c'est faire souffrir les gens pour rien. Et d'ailleurs, certains parents, si la ville ici à Kananga, certains parents ne sont pas d'accord avec de telles innovations. D'où il serait important que l'année soit déclarée blanche. Pourquoi? Parce qu'on doit être conséquent. La pandémie est mondiale.
Merci. Merci. Voilà. Merci, Benjamin. Merci d'avoir appelé de Kananga. Alors, on revient à David Diatizoa. Vous avez suivi Benjamin qui est revenu sur ce qu'avait dit également Jean-Marie Tantoumé avec le problème d'accès au courant électrique, le problème d'accès à la connexion, de moyens ne sont pas suffisamment réunis. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Comment réagissez-vous, David Diatizoa?
La préoccupation des uns et des autres n'est pas à négliger.
Oui.
Et c'est en cela que je déplore beaucoup la façon de faire du ministre des tutelles qui tient à nous gouverner par défi. Or, l'enseignement est un domaine régi par le partenariat. Et nous, comme parents, premiers partenaires de l'État en matière d'éducation, ne sommes pas consultés, ne sommes pas associés, et on ne prend pas notre point de vue, on décrète les choses d'en haut et on nous les fait gober. Et quand on nous les fait gober, on pense que nous devrions en rester là. Non, ce n'est pas comme ça qu'on pilote un secteur régi par le partenariat, coulé sous forme de loi. Ce partenariat que nous, à Adapeco, avons obtenu lors des états généraux de l'éducation. Ce n'était pas facile à faire admettre, mais finalement ça a été admis et c'est même coulé dans la loi sur l'éducation, sur l'enseignement national. Alors, ça c'est une objection de taille. Nous ne voulons pas continuer à être dirigés par défi. Et s'agissant maintenant de la préoccupation de notre collègue parent à Kananga, mais nous avions en son temps demandé au ministère, aussitôt après avoir sauvé la situation des élèves finalistes du primaire et du secondaire, que les enseignements puissent reprendre afin de terminer le troisième trimestre pour une reprise des enseignements au mois de novembre, début novembre. On n'a pas voulu nous écouter et ils ont réaménagé le calendrier à leur façon et on a reporté la rentrée au 15 octobre. Mais au 15 octobre, les enfants ne sont pas rentrés. L'effectivité des cours a commencé au mois de novembre. Ça, c'est dire que nous avions bien projeter la situation depuis le projet de réaménagement du calendrier. Mais comme on ne nous écoute pas, on vient nous diriger par défi, voilà les échecs. Et maintenant là, pendant que les enfants étaient en pleine période d'examen, et on suspend les enseignements, on donne un congé, les vacances de Noël, et la reprise n'est pas là.
Monsieur David Atrizoa, dommage que notre invité, le tout premier Hubert Kimbonza Sefou, ne soit plus en ligne parce qu'il devait avoir une réunion au niveau du ministère, parce qu'il nous avait dit qu'ils avaient une réunion avec des partenaires de l'enseignement. Vous, vous dites que vous n'êtes pas concerné, vous n'avez jamais été concerné par par toutes ces réunions. On revient à vous, hein, restez toujours en ligne. Il est temps de conclure avec Jean-Marie Tantoumeï. Jean-Marie Tantoumeï, et d'après vous, il faut simplement et purement décréter l'année blanche, c'est ça?
Ne réunis que les partenaires occidentaux qui doivent lui donner l'argent. Nous, les partenaires locaux qui connaissons les problèmes, ils ne nous associent pas. Mais le BAC est partenaire depuis plus de 30 ans.
Oui.
On a été à la scène, c'est l'État général de l'éducation. Le ministre ne voit que les partenaires occidentaux de qui il doit retirer l'argent et les syndicalistes qui parfois lui font des chantages. Voilà un ministre, heureusement qu'il est arrivé vers la fin de son mandat, mais pour un ancien de l'IPN qui est comme moi, c'est décevant. À l'IPN, ce n'est pas comme ça qu'on a appris à gérer au ministère de l'Éducation. Vous avez tous entendu et compris que nous sommes pour les innovations, mais pas n'importe comment. On ne doit pas prendre la nouveauté pour une référence parce que ça vient de l'Amérique, ça vient de la France. Non, l'année blanche, il est trop tôt de parler d'une année blanche. Attendons que le cours reprenne, nous allons examiner conformément aux standards de l'UNESCO si l'année peut continuer ou pas. Maintenant, on ne peut pas parler d'une année blanche, mais qu'on laisse les enfants à la maison être protégés contre la COVID-19 qui tue. On ne doit pas sacrifier les enfants sur l'autel du commerce parce que le Congolais est paresseux, il est indiscipliné. Beaucoup de Congolais, même les enseignants, ne sont pas contents de voir que le cours ne se donne pas. Parce qu'ils vivent au jour le jour. Ils vivent sur le dos des élèves, malheureusement. Parce que l'État les paye mal. Mais nous disons, prenons patience que l'INRB, le secrétariat technique, nous dise les conditions de reprise, respectant les avis des scientifiques. Les politiques sont démagogiques. La politique, c'est de la démagogie. Attendons l'avis du secrétariat technique et nous saurons ce qu'il faut faire. Quant au cours à distance, non. On n'en a ni les moyens, ni quoi que ce soit. Et il y a des dépenses prioritaires que nous avons reprises ici. On ne va pas les répéter. Nouvelle unité, frais de fonctionnement, paiement de frais d'examen d'État, et correcteur des examens écrits, superviseurs nationaux impayés. Le ministre n'associe personne.
Merci.
Il n'associe que quelques individus. Même à l'inspection, il travaille seul avec un petit groupe qui est son cabinet privé. Non.
Merci Jean-Marie. Tantoumeï. On attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais du moins, vous avez dit que c'est pas le moment de décréter l'année blanche. Il est temps de voir comment les choses vont évoluer. Merci. Hein. Nous rappelons que vous êtes enseignant de formation et vous l'avez dit également de vocation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, on va poursuivre ce sujet sur que faut-il faire pour permettre aux élèves de continuer à suivre les cours en cette période de la deuxième vague du coronavirus. Nous avons encore en ligne notre invité, David Datezoa, qui est président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo, en appliquant en sigle. Mais avant de revenir à notre invité, nous allons aller à Lubumbashi, où nous avons en ligne Charles Kissimba. Charles Kissimba, bonjour. Bonjour Charles Kissimba, vous nous appelez de Lubumbashi, vous êtes en ligne? Il me semble que Charles Kissimba n'est plus en ligne, alors en attendant, peut-être qu'au niveau de la réalisation, on va le retrouver. On revient à notre invité David Datezoa. Vous avez suivi David Datezoa, ce que a dit Jean-Marie Tantoumeï. Il estime que pour le moment, il faut d'abord voir comment les choses vont évoluer, mais quant à l'enseignement à distance, en tout cas pour lui, il est catégorique, c'est dès l'impréparation, on n'a pas tous les moyens pour pour essayer vraiment de faire en sorte que de nombreux élèves de la RDC puissent suivre des cours à distance.
Oui, je reviens sur les propos que j'avais tenus pour continuer dans ce sens. Vous avez dit que vous aviez invité un inspecteur général adjoint, Hubert, pour venir participer à l'émission, mais il est pris par une réunion technique qu'ils tiennent justement pour piloter cette question de l'enseignement à distance. Je lui avais dit en son temps, comment pouvez-vous tenir des réunions sans associer les parents qui sont les géniteurs des enfants, qui sont le premier partenaire de l'éducation ici en République démocratique du Congo? Ah oui, nous allons demander au ministre d'élargir, mais dans un premier temps, il n'y a pas de premier temps. On est partenaire dès le départ jusqu'à la fin, on pilote le projet ensemble. Mais c'est là maintenant que, voilà, je rejoins les propos des autres amis. C'est parce qu'il y a, quand on organise ce genre de réunions, il y a de l'argent à payer aux gens. Et donc, c'est ce petit groupe qui s'approprie ce projet-là pour que tout l'argent qu'on va sortir ne revienne qu'à eux. Ce petit groupe d'inspecteurs et de certains directeurs des services centraux, les membres du cabinet, surtout les membres du cabinet. Donc, ils s'approprient cette histoire-là. Ça devient leur COP. Vous connaissez le COP dans le sens congolais.
Donc mais monsieur voilà. David Atezoa, il y a un auditeur, Jeff Ngoy, qui est parent, qui a appelé du Kananga, et lui, il a proposé, face à tous ces problèmes d'accès à l'électricité, d'accès à l'internet, si on pouvait au niveau mettre à la disposition de chefs d'établissement des cahiers d'exercice pour les élèves de manière qu'ils le fassent à la maison.
Mais ce cahier d'exercice avait été, nous avons entendu que ce cahier d'exercice avait été mis à la disposition des chefs d'établissement. Nous, parents, nous n'avons jamais vu ce cahier d'exercice. À qui est-ce qu'on les a donné? À qui est-ce qu'on les a vendus? Quels étaient les mécanismes pour que l'enfant qui est à Luozi, qui est à Kasumbalesa, qui est à Monedi, tout puisse accéder à ce cahier? On n'a jamais vu ça. Donc, c'est de l'escroquerie. On est en train de nous vendre du vent. Et donc, si ce cahier était disponible, ce serait une très bonne chose pour que, effectivement, que les enfants soient occupés et avec l'encadrement des parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, hein, mais qui n'ont pas le programme officiel. Donc, avec ce cahier-là, nous pouvons, nous, parents, accompagner les élèves. Mais ce cahier, non, moi, je n'ai jamais vu un cahier d'exercice. À qui est-ce qu'on les a donnés?
Mais ça, c'est, ça, c'est une proposition qui a été faite par un auditeur. Et vous avez déjà entendu parler qu'il fallait mettre des cahiers d'exercice, que c'était effectif. Ça, c'est une proposition qui a été faite, qui a été bien accueillie par l'inspecteur général adjoint.
Oui, parce que les cahiers, les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNESCO, nous avons appris que c'est l'UNESCO ou l'UNICEF qui aurait remis des moyens pour l'impression de ce cahier d'exercice. Mais moi, président national, représentant légal de l'ANAPECO, je n'ai jamais vu ce cahier-là. Et par quel canon ce cahier a été distribué? Parce qu'on devait associer les parents au niveau du comité provincial, au niveau des comités sous-provinciaux et au niveau des écoles pour assister effectivement à la remise de ce cahier d'exercice aux élèves. Donc, c'est de la foutaise. Et maintenant, nous pensons qu'il est temps, comme c'est encore au début, que le ministère se ressaisisse et appelle tous les partenaires éducatifs pour qu'on puisse réfléchir ensemble pour sauver cette année.
Alors, vous savez, lorsqu'on parle de l'éducation, c'est parmi les secteurs clés hein, pour le développement d'une nation, le développement d'un pays. Alors, vous êtes président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo à la PECO en sigle. Et à votre avis, parce que ça, il faut se le dire, beaucoup des parents souvent redoutent, hein, en tout cas face à tout ce qu'il y a comme impact du coronavirus sur l'enseignement. Beaucoup des gens, surtout les parents, redoutent que les enfants puissent chômer. Il faut plus réfléchir par rapport à ça, éviter que les enfants puissent chômer.
Oui, les enfants ne devraient pas chômer parce que il y a plusieurs propositions que nous pouvons faire au pouvoir organisateur, parce que nous n'organisons pas. Nous donnons des avis, nous sommes une force de proposition. Mais c'est pas nous qui avons la décision. Et nous pouvons proposer des choses faisables et pratiques. D'ailleurs, ce samedi, nous avons une très grande assemblée générale des parents dans la ville de Kinshasa. Et après avoir recueilli toutes les propositions nous faites par les provinces, nous aurons une grande assemblée générale et au cours de laquelle nous prendrons une position que nous allons diffuser. Mais il est trop tôt pour moi de vous dire ce qu'il en sera puisque nous ne sommes pas encore samedi. Mais ce samedi 16 juin, nous avons une grande assemblée générale des parents.
Alors, puisque vous le dites aussi, vous êtes un partenaire du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. En tout cas, j'espère que vous serez associé à toutes ces réunions parce que les réunions se poursuivent encore et que tout cela pourra aboutir à des solutions qui seront les meilleures pour nos élèves. Merci beaucoup, David Diatezoa. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale des parents d'élèves d'étudiants du Congo à la PECO en sigle. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Dans la deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service, après le bulletin de 11h heure de Kinshasa, nous allons parler des comment encadrer des PME et autres start-up secouées par la crise socio-économique due au coronavirus. Nous aurons comme invité Maître Kavin Eshimata. Il est avocat et fondateur du cabinet Warom DRC, spécialisé dans l'accompagnement et l'encadrement des entrepreneurs, mais également Boni Tinda, directeur général de l'entreprise Tinda, spécialisée dans la livraison de marchandises. Si vous êtes intéressé pour ce sujet qui va intervenir dans la deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, nous vous rappelons le numéro des contacts, c'est le 081 890 63 94. Vous avez aussi, vous pouvez appeler aussi au 09 9756 63 94 ou nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net ou sur la page Facebook au Capi Service.